Pardon pour le signe. Et voilà, ce soir, les traditionnelles trompettes d'Avignon retentiront pour l'ouverture du 70e Festival. On vient d'entendre Joël Gaillot qui est sur place pour France Culture, édition anniversaire donc et programmation de prestige dans la cour du Palais des Papes qui voit le retour de la troupe de la Comédie Française absente depuis 23 ans. Elle sera dirigée par Ivo Van Hove dans les Danées et demain, coup d'envoi du off avec ses 1416 spectacles et comme chaque année son lot de surprises. À Avignon, on pourra ainsi voir des spectacles très attendus, des metteurs en scène confirmés ou en voie de consécration, des spectacles déjà programmés dans les différents théâtres de France et d'ailleurs, mais aussi, espérons-le, pour le public et les programmateurs des différentes scènes de France et de Navarre, faire des découvertes. Voilà un an de ça, la carte aux crises lançait l'alerte sur la disparition des festivals confrontés à de graves problèmes financiers et c'est vrai qu'on a tendance à aborder cette question sous cet angle comptable, mais il reste tout de même 3500 festivals chaque année en France. Alors ce soir, au Grain à Moudre, nous avions envie de nous demander que peut-on encore découvrir dans ces festivals. Et pour répondre à cette question compliquée, trois invités. Bénédicte Dumèche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de France Festival. Qu'est-ce que c'est France Festival ?
C'est une fédération qui a été créée dans les années 59, fin des années donc 50, et qui réunit près de 80 festivals en France.
Des festivals de musique, des festivals de...
Alors, l'histoire la porte plus vers les musiques, mais nous avons ouvert au spectacle vivant et nous avons des festivals qui traversent les disciplines.
Elle connaît aussi bien la musique que le spectacle vivant. Tortuillo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en charge de la programmation musicale de la scène nationale d'Arras et de Douai, programmatrice aussi pour Insula Orchestra et vous avez... travailler, il me semble, un temps au Festival d'Île-de-France. Vous avez la vision, on va dire, assez panoptique de ces questions. En face de vous, Anaïs Fléchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et vous avez coécrit une histoire des festivals du 20e au 21e siècle et ça a été publié aux éditions de la Sorbonne. C'était en 2013, c'est ça ? Et donc, voilà, pareil, vous allez pouvoir nous apporter un petit peu de, on va dire, de profondeur historique à la question qui nous intéresse ce soir. Alors, une première question à toutes les trois. On a beaucoup parlé, je le disais, dans le chapeau de cette carte aux crises il y a un an qui insistait sur la disparition de festivals. On parle beaucoup de la question des financements des différents festivals. Il en reste quand même beaucoup, beaucoup en France chaque année. Comment, dans quel état sont les festivals en ce moment, Bénédicte Dumèche ? Ils se portent plutôt bien ?
Alors, ils se portent pas si mal, ils ont des difficultés qu'ils doivent affronter, mais néanmoins, il est vrai que cet effet d'optique porté par la carte aux crises a un petit peu dissimulé une réalité qui est que, en fait, les festivals, certes, pour un certain nombre disparus, mais il y en a autant qui se créent, voire plus dans certains secteurs. Et au fond, plusieurs études ont permis de dénombrer les festivals, et on s'aperçoit que, notamment dans les musiques actuelles, ils s'en créent plus qu'ils n'en disparaissent. Donc c'est la difficulté de cette carte aux crises qui avait mis en effet en évidence uniquement les disparitions. Par ailleurs, certes, elle insistait beaucoup sur la baisse des financements publics. C'est une réalité dans les politiques publiques en général. Et évidemment, ni la culture, ni les festivals n'y échappent. Et en revanche, la question de lier en fait les disparitions à des problèmes financiers n'est pas forcément automatique. Et nous connaissons en fait un certain nombre de manifestations qui peuvent disparaître aussi du fait de l'ancienneté, finalement, des porteurs de projets, puisqu'en fait, ce sont un peu les enfants de la décentralisation, mais nous en reparlerons certainement. Le grand volume de festivals a été créé quand même dans les premières années des lois de décentralisation, années 80-90, et finalement, les initiateurs sont en bout de parcours, et parfois, comme dans l'entreprise, on ne sait pas passer le relais.
Anaïs Fléchet, les festivals, c'est même bien plus vieux que cette période que vient d'évoquer Bénédicte Dumèche, et j'ai l'impression qu'ils ont toujours été en crise, à vous lire.
Oui, alors on date l'apparition des festivals au sens moderne de la fin du 19e siècle, avec le grand modèle qu'a été le festival de Bayreuth, donc qui a ouvert ses portes en 1876 pour la première fois. Et dès le début du 20e siècle, on lit dans la presse, dans les chroniques des festivals, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, beaucoup de critiques sur ces festivals et sur l'éventuelle crise que connaissent ces festivals. Et donc des questions très actuelles, en fait, sont posées déjà dans toute cette première moitié du 20e siècle. Je pense par exemple au festival de Salzbourg, qui a été un grand marqueur de la vie culturelle de l'entre-deux-guerres et qui, dès sa création, suscite de nombreuses polémiques sur la question de la programmation, bien sûr. Qu'est-ce qu'on y montre, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y entend, mais aussi sur les rapports entre la population locale, qui se sent généralement envahie, et les festivaliers, qui sont présentés comme des festivaliers mondains, venus de l'étranger, venus des grandes capitales culturelles européennes, se divertir le temps d'un été dans cette ville de Salzbourg. Donc des tensions qui existent depuis longtemps et qui posent aussi la question des financements, puisqu'on voit, je continue toujours sur cet exemple du festival de Salzbourg, que ces deux créateurs du festival, que sont Max Reinhardt et Hugo von Hofmannsthal, se battent pour obtenir des financements auprès de la ville, auprès de la région, et que l'argument qui est toujours mis en avant, c'est l'argument touristique, déjà dans l'entre-deux-guerres.
Ah bah on voit que c'est toujours le cas aujourd'hui, puisqu'il y a eu le rapport de Pierre Cohen, cet ancien maire du Parti Socialiste, maire de Toulouse, à qui on a confié il y a un an, c'était Fleur Pellerin à l'époque qui était ministre de la Culture, et qui lui a confié justement à l'occasion de cette carte crise un rapport sur le rôle de l'État et des collectivités territoriales dans le financement des festivals. Et c'est vrai que c'est important, cette question du développement territorial. Mais au Tortue, je voudrais qu'on commence déjà à parler un petit peu aussi de programmation et de contenu de ces festivals. Vous, qui êtes programmatrice, d'ailleurs pour nos auditeurs, il serait peut-être bon de rappeler un petit peu ce que vous faites concrètement, notamment pour cette scène nationale d'Arras et de Douai. Vous qui êtes programmatrice, est-ce que les festivals, c'est un lieu pour vous de découverte aujourd'hui ?
Oui, ça reste un lieu important de découverte parce que ça reste un lieu important de visibilité. C'est-à-dire que, quels que soient les festivals, alors évidemment on parle toujours d'Avignon, mais c'est le cas aussi pour des festivals plus petits mais pointus, quand je fais le métier de programmatrice, c'est que j'ai déjà entendu parler d'artistes dont je n'ai pas pu voir le travail, parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment quand des artistes créent une production, ça n'est montré que une ou deux fois, donc si vous l'avez raté, eh bien l'œuvre disparaît. Et ces festivals, eh bien c'est l'occasion de revoir ça pour plusieurs représentations. Et du coup, c'est aussi un lieu où les programmateurs viennent. J'ai envie de dire, c'est un peu comme à Cannes, ça devient parfois aussi un marché, c'est-à-dire que vous allez voir cette représentation, que ce soit, je parle plutôt du spectacle vivant, vous rencontrez des programmateurs, les artistes, et vous décidez ensemble de reprendre le projet ou d'aider cet artiste-là à créer une nouvelle forme et d'être rentré du coup en coproduction. Donc quand on dit est-ce qu'on voit des choses qui nous surprennent, oui, parce que aussi un festival, ce sont quand même des bonnes conditions, c'est-à-dire que vous allez avoir un public de curieux. Et du coup, vous allez pouvoir aussi présenter des formes que vous ne présenteriez pas dans une saison classique d'un théâtre. Et je le vois bien à la scène nationale d'Arras-Douai. Mon métier, c'est de programmer des spectacles musicaux, du théâtre musical. Eh bien, c'est aussi en fonction d'un territoire donné et d'un public donné. Et il y a des choses dont je sais très bien que je ne peux pas les présenter comme tel dans la saison, mais qu'en revanche, si je le présente dans un temps fort qui est aussi un festival, puisque les scènes nationales et les saisons font eux-mêmes des moments festivaliers, eh bien pourquoi ? C'est montrer un focus particulier avec un travail sur le public particulier, et c'est là qu'on va pouvoir montrer les formes les plus pointues.
Mais c'est l'importance de l'événement aujourd'hui, voilà, dans les politiques culturelles pour faire venir les publics, faire connaître les spectacles ou les créations. Et évidemment, Bénédicte Dumel, j'ai parlé de ce rapport de Pierre Cohen. Je crois que à France Festival, vous avez l'occasion de le lire. C'est un rapport qui est assez court, qui a fuité, hein, puisqu'il n'était pas censé sortir tout de suite. Enfin, voilà, avec le changement de ministre de la Culture. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport, et est-ce qu'il est intéressant?
Oui, il est très intéressant parce qu'en fait, certes, il est court, mais il est dense, finalement, dans les informations qu'il apporte. Et il reconnaît, en fait, le rôle des festivals dans l'écosystème, en fait, de la création et de la diffusion du spectacle vivant, mais bien au-delà aussi, hein, parce qu'on a parlé spectacle vivant, mais c'est sur toutes les formes culturelles.
Et aussi dans le développement du territoire, on en parlait tout à l'heure avec...
Alors absolument, et c'est probablement, en fait, quelque chose qui retient toute l'attention, c'est que, au fond, bien que ce rapport ait été commandé par l'État, il met en évidence évidemment le poids considérable des collectivités territoriales dans le financement des festivals. Et finalement, il conclut sur le fait que certainement il y aurait une voie en fait à trouver, à structurer, pour que région par région, il ne vous a pas échappé non plus que les régions ont été légèrement modifiées ces derniers temps, mais que c'est l'occasion finalement de saisir cette opportunité pour essayer de réfléchir à des politiques structurantes en faveur des festivals et qui croisent au final deux aspects, c'est-à-dire l'aspect artistique pour répondre en fait à l'intérêt et au repérage et à la diffusion des artistes au plan national. On n'oublie pas aussi les artistes internationaux d'ailleurs, hein. C'est très important aussi ces lieux pour échanger avec l'ailleurs. Mais deuxième point, c'est pour dire qu'au final, le festival a une implication, a un enracinement territorial extrêmement fort. Et là, c'est l'intérêt de la convergence avec la stratégie des publics. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, il révèle ce point très fort et en disant que probablement, il faudrait expérimenter dans une région ou une autre, la mise en œuvre d'un nouveau dispositif concerté. Et ça, on trouve ça extrêmement intéressant et on est prêt à y participer.
Anaïs Fléchier.
Oui, je voulais rebondir sur cette question du jeu d'échelle très complexe qui se joue dans les festivals, puisqu'on voit bien toute l'importance du niveau local, du niveau régional, mais aussi des politiques culturelles qui peuvent être décidées à l'échelon national. Et de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire de ces festivals qui sont des lieux de rencontre d'artistes qui viennent d'horizons divers, qui viennent de pays, voire de continents parfois très éloignés. Et ce rôle de passeur culturel des festivals, il a été historiquement très important et je pense que dans une certaine mesure et dans des secteurs particuliers, il continue à être tout à fait d'actualité. On sait le rôle et le poids des festivals dans l'émergence des musiques du monde, par exemple, depuis les années 80, et dans leur renouvellement aussi aujourd'hui. Et on sait que pour des programmateurs, mais peut-être que vous me contredirez, c'est souvent plus facile d'avoir des programmations ambitieuses et de faire venir des artistes de loin, donc d'avoir des frais aussi assez conséquents, dans le cadre d'événements qui se présentent comme extraordinaires, dans le sens où ils sont en forme de rupture avec les saisons culturelles classiques, avec aussi les lieux, hein, puisque la plupart des grands festivals, finalement, si on regarde la géographie à l'échelle internationale, on s'aperçoit que ces grands festivals se situent hors des grandes métropoles culturelles et qu'il y a une forme de délocalisation qui fait que non seulement on n'est pas forcément dans le temps de la saison, mais on doit aussi se déplacer pour aller au festival. Et donc il y a une forme de voyage culturel associés au festival.
Sans compter que ce que vous dites est tout à fait vrai et que, par ailleurs, on voit que dans les grandes capitales européennes, le festival joue le rôle, finalement, de palliatif. C'est-à-dire que quand vous voyez les festivals de Bruxelles ou de Vienne, qui proposent des choses extrêmement contemporaines. Alors notamment le festival les Wiener Festwochen à Vienne, c'est parce que aussi ça vient contrebalancer une offre à la saison et une offre régulière à Vienne qui est très peu tournée vers le contemporain. Et donc du coup, ce moment-là du festival typiquement européen, où en effet on voit les grands metteurs en scène de toutes les nationalités arriver, et que vous verrez à Bruxelles, et que vous verrez au festival d'Avignon, et que vous verrez à Paris, eh bien c'est aussi ce moment et ce festival-là qui permet à la ville de Vienne de casser son image de, je caricature, Mozart Sissi, pour passer sur des choses en art plastique, en art contemporain, très pointu. Et ça, c'est intéressant de voir que le festival aussi, il est aussi utilisé par les collectivités pour être aussi parfois une caution culturelle. Et si on a vu aussi des festivals se créer, comme vous le disiez, Bénédicte Dumèche, c'est aussi que pour certaines municipalités ou collectivités, eh bien, voilà, ça permet d'éviter à financer toute l'année des structures culturelles.
Du grain à moudre d'été. Raphaël Bourgois.
Avec ce soir, la question de savoir ce qu'on peut encore découvrir dans les festivals, à l'occasion évidemment de l'ouverture du 70e Festival d'Avignon. Trois invités, Bénédicte Dumèche qui est directrice de France Festival, Tortuo qui est programmatrice à la scène nationale d'Arras et Douai, et Anaïs Fléchier qui est historienne. Ce que vient de dire Aude Tortuio est intéressant, Bénédicte Dumège, Anaïs Fléché, je ne sais pas qui va vouloir répondre, mais c'est cette articulation finalement territoriale entre le festival et la scène, les scènes, qu'elles soient publiques ou privées. C'est vrai que le boom des festivals, c'est les années 80. Il y a eu un boom des festivals dans les années 80. Ça correspond aussi à un moment où le maillage, on va dire, des scènes se met en place en France avec la politique menée notamment par Jack Lang. Comment est-ce que aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué aujourd'hui? Comment est-ce que aujourd'hui se fait cette articulation entre l'événement, celui du festival, et le travail toute l'année finalement des scènes, qu'elles soient publiques ou privées? Bénédicte Dumège.
Alors je veux bien apporter un regard sur cette question. C'est que au fond, vous avez raison de le souligner. Je pense que pendant un certain nombre d'années, dans les années 80, 90, il y avait une sorte de défiance entre les directeurs, directrices de scènes permanentes et les festivals, les uns accusant notamment les festivals d'être un peu parachutés, d'être une animation territoriale, et peut-être à juste titre d'ailleurs, hein, pour certains d'entre eux, parce que cette galaxie festivalière, elle est quand même très diverse. Nous parlons quand même là peut-être...
Oui, c'est vrai qu'on parle de festivals comme d'un tout, et il faudrait
je
peut-être commencer
là,
par dire
peut-être
que c'est
nous
très varié,
parlons, ouais. C'est vrai, des festivals qui prennent le plus de risques et qui ont un vrai rôle dans le spectacle vivant en général, voire dans, enfin, sur une palette plus élargie même au sein de la culture. Mais il y a certes des festivals d'animation territoriale à vocation exclusivement touristique, il ne faut pas le nier non plus. Mais donc pour revenir à notre sujet, c'est au fond, il y avait une espèce de, comment dire, défiance hein, entre les directeurs et directrices de scène et les festivals. Mais à tel point que moi, quand je suis arrivée à France Festival, il faut savoir aussi qu'au ministère de la Culture...
C'était une quinzaine d'années, je crois.
C'était il y a une quinzaine d'années, oui. Et il faut savoir qu'au ministère de la Culture, on ne connaissait pas bien la réalité des festivals. Et en fait, ils étaient totalement abandonnés, soutenu, mais je dirais soutenu un peu par défaut, sans réflexion au final sur leur intérêt, pourquoi, comment, quels pourraient être des critères. Et on a vu quand même les choses évoluer. On a vu les choses évoluer. Aujourd'hui, on voit alors des festivals, dans les études que l'on conduit auprès de nos adhérents, mais sur des échantillons aussi beaucoup plus larges, un festival sur deux a une activité à l'année. Donc ça, je prends que c'est un point notable.
Ça prend quelle forme ?
Alors, elle peut prendre des formes très différentes. Ça peut être des résidences, en fait, artistiques ou des résidences de compositeurs quand on est dans le secteur musical. Ça peut être des projets territoriaux et notamment avec les établissements d'enseignement, hein, les conservatoires, par exemple, ou les établissements d'enseignement de l'éducation nationale. Ça peut être également des programmations. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que des directeurs de scène qui, par définition, ont quand même du mal à embrasser parfois un champ très très large sur le spectacle vivant, on parle des scènes nationales, ou peuvent confier à des programmateurs spécifiques de programmer la musique, la danse ou d'autres disciplines. Et parfois, et peut-être de plus en plus, on voit qu'on fait appel en fait aux programmateurs de festivals. Donc on voit que, et dans le même temps, autre mouvement, c'est que les théâtres, les scènes permanentes, Tortuio l'a bien indiqué tout à l'heure, créent des temps forts, des événements particuliers pour exposer des œuvres plus difficiles ou créer des parcours qui vont permettre aux spectateurs de voir une diversité beaucoup plus large d'œuvres. Donc on voit que cette mise en je dirais face à face n'est plus en fait un défi réellement aujourd'hui.
Anaïs Fléchier, vous l'avez constaté, vous, cette évolution, on va dire, de la concurrence entre les festivals et les scènes, qu'elles soient, enfin les scènes nationales par exemple, et aujourd'hui peut-être une forme de coopération plus avancée?
Oui, si on prend les choses sur un temps long, effectivement, chaque festival se veut un moment exceptionnel. Donc le festival se présente toujours comme un temps de rupture. Mais en même temps, quand on y regarde d'un peu plus près, on constate souvent des formes de complémentarité entre les programmations culturelles existantes et ce qu'on peut voir sur les scènes des festivals. Et ce, depuis au moins l'après-Seconde Guerre mondiale, qui a été le premier moment de grande expansion du phénomène festivalier avant la vague de création massive des années 80-90. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de souligner ce phénomène, disons, de complémentarité, qui se présente parfois dans les discours comme un phénomène de concurrence, mais qui, dans les pratiques, peut en fait jouer sur des formes de symbiose entre les salles qui ont une programmation annuelle et les festivals. Donc ce phénomène-là, on le voit évoluer dans le temps et il me semble, et c'est d'ailleurs pas moi uniquement qui le dit, qu'il y a un mouvement que certains ont qualifié de festivalisation de la vie culturelle. Festivalisation, le terme est souvent employé de manière péjorative pour décrire ce qui serait en quelque sorte un avatar de la pensée libérale appliqué au territoire et à la sphère culturelle, pour aller vite et pour être peut-être un petit peu cynique dans le propos. Et donc ce terme de festivalisation, il est employé de manière péjorative. On peut s'interroger sur la réalité de ce phénomène, mais il est vrai qu'on a quelques traits qui vont un petit peu dans ce sens, qui sont assez caractéristiques. C'est bien sûr l'augmentation du nombre de manifestations au tournant 20e, 21e siècle, mais c'est aussi la transformation des cycles de programmation artistique en festival. Donc là, au-delà même de la saison des festivals, on se rend compte que les festivals ont un impact sur les saisons culturelles en tant que telles, qu'on va avoir une saisonnalisation de la vie culturelle du fait de ces festivals qui sont quand même majoritairement concentrés sur les mois d'été. Et puis, dernier élément très important, le goût pour l'événementiel, qu'on voit pointer dans de nombreux domaines et bien sûr dans le domaine culturel. Et il me semble que la conjonction de ces trois éléments participe à ce phénomène de festivalisation qu'on peut voir, qu'on peut essayer d'étudier d'un point de vue peut-être un peu plus objectif que ce qu'il apparaît dans les différentes polémiques actuelles.
Bénédicte Dumèche.
Alors, je partage en tout point votre analyse. J'ajouterais peut-être juste une petite nuance sur la question de la saisonnalité des festivals. Les études que l'on réalise, en fait, on s'aperçoit qu'on en a certes une majorité qui sont l'été, les deux mois juillet-août, mais en fait, c'est une majorité relative. On est entre 50 et 60% des festivals qui se déroulent l'été. Et en fait, on a un certain nombre de manifestations qui se déportent sur d'autres saisons, et y compris des grands, grands événements, des grands temps forts qui sont alors là, clairement, en dehors de cette saison. Je pense à la Folle Journée qui est en janvier et février. Je pense au Festival d'automne, qui, comme son nom l'indique, est en automne et qui sont des grandes manifestations, musique à Strasbourg, en Brunet, enfin, il y en a un certain nombre. Alors c'est vrai qu'on a aussi cette image du festival été, donc juillet-août avec le plein air, c'est quand même une image qui est très fortement aussi associée aux musiques actuelles.
Alors vous parlez du festival d'automne, Bénédicte Dumèche, c'est intéressant parce que voilà un festival qui n'a pas de lieu, enfin voilà, qui se passe dans les théâtres parisiens, qui ont une programmation annuelle, et c'est vrai que c'est aussi un moment fort pour les théâtres parisiens qui montrent des créations internationales, des coproductions, c'est le moment de coproduction évidemment entre différentes scènes en France. Voilà un festival au Tortuyau qui joue ce rôle peut-être de défricheur, de créateur et aussi de lieu de coproduction.
D'effet levier, puisque ce qui est très intéressant avec le festival d'automne, et ça a été le cas dans un festival qui a disparu maintenant, qui s'appelait Automne en Normandie et qui était très important aussi, c'est que c'est la logique selon laquelle les lieux type théâtre de la ville ou les grands, seuls ne pourraient pas ni accueillir ni coproduire. Et quand le festival d'automne est créé, le festival d'automne, ou à l'époque Automne en Normandie, apporte des moyens financiers pour que le projet ait lieu, pour faire venir les artistes, pour qu'il y ait beaucoup plus de représentation. Et là, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que le rapport entre l'argent public investi et le nombre de spectateurs est bien meilleur, que la durée de vie des œuvres est là aussi bien meilleure, et que les artistes vivent mieux parce qu'ils travaillent plus. Donc là, on est dans un cercle vertueux d'un festival qui joue son effet levier, là où seuls les théâtres et les saisons ne pourraient pas accueillir. Et là, l'événement, il devient double. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on peut voir dans des villes, par exemple, en Normandie, c'était le cas, où tout d'un coup, vous pouviez voir dans des villes de 30 000, 40 000 habitants des spectacles qui, d'habitude, sont accueillis à Vienne ou au théâtre de la ville. Et donc là, on était vraiment, encore une fois, sur ce cercle vertueux.
Mais alors, est-ce que ça n'a pas un effet pervers qui est parfois pointé du doigt, qui est celui de l'uniformisation des programmations? C'est vrai que c'est beaucoup critiqué dans les festivals, et puis ensuite, évidemment, dans les théâtres, les scènes, qu'elles soient musicales ou de théâtre vivant, de spectacle vivant, pardon, qui vont faire leur marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au Tortuyau, dans ces festivals. Voilà, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec un champ restreint de création, de créateurs, de types de spectacles, puisque l'événement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Anaïs Fléchier, pour faire événement, on a peut-être tendance à aller chercher, une tautologie, mais voilà, pour faire événement, on va chercher ce qui va faire événement.
Oui, mais en même temps, qu'il y ait un formatage entre les grands festivals dont je vous parlais, mais c'est parce que là aussi, il faut faire attention à l'effet d'optique. C'est-à-dire que là, on est en train de parler des gros mastodontes du spectacle vivant et donc des coproducteurs qui sont sur le même niveau et d'ailleurs d'expérimentation artistique. Mais ces endroits-là, que ce soit le Off d'Avignon, mais surtout d'autres endroits, présentent des formes où c'est quand même dans ces festivals-là que vous allez voir les formes les plus radical.
Et c'est là que vous allez, vous, par exemple,
en tant que programmatrice ? Oui, par exemple, en tant que programmateur, notre travail, il est aussi bien d'aller dans ces grands festivals-là, parce que ça donne quand même une idée de la création mondiale. Et c'est quand même très important dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire, tiens, il y a quand même des thématiques qui reviennent énormément en ce moment. On se disait ça depuis 2-3 ans, que dans la danse, la question du folklore était très souvent notée. Et bien, c'est aussi, à un moment donné, dans les festivals, en voyant beaucoup de choses comme ça, qu'on perçoit et qu'on peut analyser l'état de la création dans le monde. Mais à côté de ça, il faut aller voir toutes les formes beaucoup plus radicales parce que ce sont des artistes dits émergents, mais qui font évoluer les formes du spectacle vivant. Et donc ça, c'est aussi dans ces festivals-là qu'on trouve.
Anaïs Fléchier, vous allez me dire que la standardisation, l'uniformisation, c'est un problème qui se pose depuis très longtemps.
Oui.
Je vous vois venir.
Je reprends mon rôle d'historienne, mais je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ce lien entre le festival et les avant-gardes est essentiel, et on le voit dans plein de domaines différents, pas uniquement dans le spectacle vivant. Il suffit de penser au Festival de Cannes et son rôle dans la diffusion des nouvelles vagues, depuis le néoréalisme italien jusqu'au cinéma novo brésilien. Et donc il y a cette ouverture sur l'international, mais aussi ce lien avec l'avant-garde qui est tout à fait important. Et parallèlement, on voit d'ailleurs que, à cette même époque, la multiplication même des festivals pose question. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut continuer à faire du festival un événement exceptionnel à partir du moment où il y a tant de festivals qui sont créés? Et c'est un sujet d'inquiétude. Il y a une association internationale des festivals de musique qui se crée dans les années 50 et qui lance des enquêtes sur cette question et qui déplore au fond la perte d'âme des festivals, au sens de perte de valeur artistique des festivals, du fait de cette multiplication qui fait que les programmations se répéteraient d'un festival à l'autre et qu'on serait dans des sortes de petites bulles, hein, et qu'il suffirait d'aller, à Aix-en-Provence, à Spolette, et on retrouverait exactement les mêmes œuvres, les mêmes artistes.
Et ça, c'est pas vrai.
Ah, ça peut être tout à fait discuté, c'est pas vrai, ça fait partie du discours sur les festivals, tout comme, au fond, le projet utopique des festivals peut aussi être discuté. Je pense que les festivals ne sont ni un lieu absolu de découvreurs de talents, ils peuvent l'être, mais ils ne le sont pas tous, et ils ne sont pas non plus uniformisés, standardisés à 100%. Ce sont, au fond, des réalités très diverses. Et d'ailleurs, il y a une dimension qui n'a pas du tout été évoquée jusqu'ici et qui est tout à fait importante, c'est la dimension rituelle de ces festivals. Et au fond, on va dans un festival pour écouter, pour voir, pour regarder, pour s'imprégner de toute une série de créations, mais aussi pour vivre un moment particulier. Et il y a une dimension de communion, une dimension communautaire, on peut le dire aussi, qui peut s'exprimer dans certains festivals et qui est liée à l'origine religieuse de ces manifestations. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre en compte, à mon avis.
Aude Tortuo, et après Bénédicte Dumais, sur cette question de l'identité, finalement, des festivals.
Je pense qu'il y a aussi un sujet que, pour l'instant, on n'a pas abordé, mais qui fait vraiment partie de l'identité du festival, c'est les publics. C'est effectivement le travail sur les publics. Qu'est-ce qui fait aussi que, en dehors, parce que là, on vous parle de programmation, etc., parce que moi, j'ai un point de vue un peu évidemment particulier, puisque c'est mon métier, mais qu'est-ce qui fait quand vous discutez avec le public? C'est la façon dont le public est accueilli, c'est l'ambiance générale qui y règne, c'est que tout d'un coup, on essaye des formats, qu'on peut tenter des choses, on peut essayer des choses en tant que travail sur les publics, et c'est ce que disait Bénédicte Dumège tout à l'heure, c'est aussi pour ça que les festivals ont une activité toute l'année, c'est que pour préparer ce mouvement événementiel, notamment sur ce qui s'appelle l'action culturelle, c'est c'est-à-dire de travailler sur un territoire, de faire venir en amont les artistes pour les faire rencontrer, ça fait partie du travail sur les publics et de l'accueil que ces festivaliers vont avoir. Et quand vous voyez un festival comme Jazz sous les pommiers à Coutances, qui devient mythique dans la façon dont ça fonctionne, c'est que ça travaille avec des milliers de bénévoles qui font eux-mêmes la programmation. Et vous voyez, quand vous êtes à Coutances, que, un, effectivement, le public est essentiellement de la région, c'est-à-dire qu'après, d'autres, entre guillemets, professionnels vont venir de la France entière parce qu'ils vont repérer des choses et des artistes singuliers. Mais c'est avant tout une implication de la population grâce à un travail sur les publics très original.
Bénédicte Dumège.
Oui, moi j'aimerais aborder une question qu'on n'a pas véritablement traitée, parce
qu'on
en a déjà traité beaucoup.
Ça fait trois questions qu'on n'a pas abordées
oui,
à la suite,
dire,
là.
Mais on peut dire beaucoup de choses, en fait, sur les festivals. Et
il nous reste encore une petite dizaine de minutes.
Alors, moi, en fait, on a parlé évidemment des grandes machines qui ont une importance fondamentale dans la création artistique. J'aimerais parler d'un autre niveau, c'est des festivals, en fait, de moyenne dimension ou parfois de petite dimension, qui peuvent à la fois prendre des risques. Il y en a.
C'est-à-dire, quand vous dites petite, moyenne dimension, ça veut dire combien de festivaliers, quelle taille?
Peut être quelques milliers uniquement de festivaliers, et on peut être dans des territoires extrêmement reculés. Moi, je pense à un festival, par exemple, qui va pas tarder à commencer, qui s'appelle Chaillol, qui est en moyenne montagne, enfin, voire, je sais même pas si on peut pas qualifier même sur certains aspects haute montagne, et qui fait un travail de création avec un temps fort, extrêmement fort, le festival, mais aussi avec une programmation à l'année. Mais je pense aussi au rôle, donc exemple tout à fait vertueux, mais je pense aussi à d'autres festivals qui, pour le coup, n'ont pas forcément moyen d'être producteurs ou de créer des œuvres, mais qui sont des relais extrêmement importants pour la reprise des œuvres et pour l'allongement de la durée de vie. Et donc pour le fait aussi de pouvoir faire en sorte que ces œuvres mûrissent et que les artistes travaillent. Donc je pense que c'est extrêmement important. Enfin, certes, notre prisme est centré sur la production, la création, c'est extrêmement important, mais il ne faut pas oublier le deuxième et le troisième cercle qui fait vivre l'ensemble de l'écosystème, et parfois dans des endroits extrêmement reculés, avec des bénévoles, parfois aussi sans personnel salarié, et qui arrivent à faire fonctionner l'ensemble du système.
Anaïs Fléché.
Oui, je voulais revenir sur cette idée des endroits extrêmement reculés, en prenant un exemple tout à fait différent de ceux qu'on a déjà évoqués, qui est l'exemple du festival Burning Man dans le désert du Nevada. Donc chaque année, une ville entière se construit, et les burners, comme on nomme ces festivaliers, se retrouvent donc pour un festival qui se veut essentiellement expérimental, et où finalement la programmation, enfin, ou du moins la part artistique, passe souvent au second plan par rapport au public et par rapport à l'expérience vécue collectivement par ces festivaliers, et qui n'hésitent pas à affronter des conditions quand même assez difficiles pour participer à cette aventure. Et là, on retrouve cette idée de pèlerinage aussi qui est depuis longtemps associée au festival.
C'est intéressant ce que vous dites, Anaïs Fléché, parce qu'en préparant cette émission, j'ai pu lire un certain nombre d'articles avec des journalistes qui se plaignaient justement d'une forme de, on va dire le mot, boboisation des festivals, notamment les festivals de musique actuels, pour, je crois que c'est le terme consacré, de musique amplifiée, enfin voilà. Et c'est le Burning Man qui était un événement radicalement, enfin de contre-culture à la base, est devenu quelque chose d'évidemment très bobo. Je crois même que Barack Obama en a parlé en disant qu'il avait interdit à sa fille d'y aller. Donc vous voyez à quel point ça a pris une ampleur énorme. Est-ce que il y a aussi ce phénomène, c'est-à-dire les festivals qui pouvaient être un lieu de contre-culture, on pense aux festivals de musique des années 60-70, reste ce lieu-là, ce lieu de contestation, ou est-ce qu'il n'y a pas dans cette idée de événementialisation, de standardisation, il n'y a pas un peu de ça aussi, c'est-à-dire voilà, maintenant il y a un côté un peu propre, quoi.
Bah, ça rentre dans l'institution.
Et puis même, j'ai pu là aussi, je termine là-dessus, qu'il faut aujourd'hui adosser son festival absolument à des considérations écologiques. Voilà, il faut prendre en compte ces questions-là. Ça vous fait rire, Anaïs Fléché?
Non, puisque en fait, les festivals contestataires, il peut y en avoir, et qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont de taille bien plus modeste, et c'est pas forcément ceux qui seront médiatisés. Donc, c'est aussi la question de la médiatisation des festivals que vous soulevez. Et puis, d'une forme de, on peut appeler ça, comment dire, de glamourisation de certains festivals. On pense à Coachella, par exemple. Qu'est-ce que c'est Coachella aujourd'hui? Bon, c'est une grande scène en termes de musique actuelle, mais c'est surtout une grande scène pour la mode. On sait qu'il y a des marques comme H&M ou Asos qui lancent des lignes spéciales pour le festival de Coachella. Donc il y a des formes de récupération qui peuvent se jouer dans le domaine politique, dans le domaine économique, et qui effectivement rendent tout à fait complexe une lecture univoque du phénomène festivalier.
Et puis chaque période, comme vous le disiez, sur en ce moment la folie des consignes et des gobelets de consignes par rapport à une démarche verte, responsable. Et je pense que chaque époque va voir naître et verra naître des festivals de contre-culture, entre guillemets. C'est-à-dire que ce dont vous parliez tout à l'heure en disant que ça se boboisait, c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre qui va se créer ailleurs et qui va être très révélateur de la société, de la façon dont les gens ont envie de vivre ensemble. Et surtout, je pense qu'on verra naître des festivals sur des esthétiques et puis des domaines qui, pour l'instant, nous sont inconnus.
Oui, je voulais rebondir sur la question de la gestion des ordures, parce que dans beaucoup d'histoires de festivals, c'est un problème. Et c'est un problème pour la population locale, c'est un problème aussi pour les organisateurs de festivals qui sont souvent dépassés par cette question. Et vous évoquiez les grands festivals de musique pop, type Woodstock, Festival de l'Île de Wight. Et quand on regarde les images de ces festivals, alors ce qui est marquant, c'est qu'on voit des artistes sur scène, mais on voit surtout le public qui est mis en avant dans sa nouveauté radicale de l'époque. Donc public jeune, qui s'identifie à des codes associés à la contre-culture, etc. Mais ce qu'on voit aussi dans les images, c'est le lieu du festival après, vidé du public et avec des monceaux d'ordures. Et c'est une préoccupation qui, avec l'institutionnalisation des festivals, a peut-être été prise en compte de manière différente.
Mais Ligue du Mèche, on voit, on est descendu dans les considérations très très prosaïques, là, hein, sur... l'État, enfin voilà, sur les festivals, et comment dire, si l'État dans lequel ils laissent les lieux qu'ils occupent.
Oui, mais c'est une réalité, donc il faut pas s'en abstraire. C'est surtout lié quand même au phénomène des festivals de musiques actuelles, qui permettent, grâce à l'amplification, d'avoir des jauges énormes. Et c'est le profil un peu des festivals qui sont organisés dans des champs ou sur des grandes esplanades, et où on a un camping aussi. C'est-à-dire qu'on va même pas quitter le festival la nuit. On y vit. C'est 3 jours d'immersion totale. Et au fond, que ces questions se posent, ça me semble aussi assez naturel et sain.
On a parlé des publics pour terminer cette émission, puisque voilà, on lance la saison des festivals en quelque sorte aujourd'hui sur France Culture. Ces publics, qui sont-ils ? Est-ce que ils sont essentiellement du coin dans lequel se déroule le festival ? Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut le dire de manière aussi générale ? Parce que j'imagine que pour Avignon ou pour un petit festival comme vous le disiez tout à l'heure, Bénédicte Dumèche, c'est très différent. Comment est-ce qu'on sait un petit peu identifier ces publics ?
Alors nous avons conduit des études sur les publics des festivals plutôt de musique, mais toutes esthétiques confondues. Hein. Donc il y a quand même des grandes nuances entre évidemment les musiques actuelles ou les musiques classiques, enfin dites savantes, ou le jazz, ou le blues, ou la chanson aussi, qui réunit un certain nombre de festivaliers. Donc c'est des profils différents. Mais je dirais de manière un peu schématique, il faut imaginer que les publics sont originaires de la région. En très très grande majorité, c'est bon an mal an, c'est autour de 70-75%. Hein, si on prend le niveau local, départemental
même,
et régional.
Même pour les festivals comme Avignon, Aix, les
Alors,
gros festivals comme ça.
Probablement là, les chiffres vont, les ratios vont être un peu moindres sur la population régionale, mais elle reste très importante. Il faut quand même le dire.
Oui, pour Avignon, on a des enquêtes récentes et on sait que 40% environ des festivaliers viennent de la région. Et 18% de Paris. Donc c'est un festival qui est peut-être plus parisien par rapport aux autres festivals.
Enfin 18%,
mais
c'est pas non plus...
on voit quand même qu'on est loin de l'image très élitiste du festival, avec un public qui serait essentiellement parisien et qui se délocaliserait le temps d'une manifestation.
Vous confirmez, Haute Tortue ?
Oui, c'est un public de passionnés que vous voyez dans les rues à Avignon en train de voir quel spectacle ils vont aller voir, en faire 6, et quand vous discutez, il y a un profil de spectateurs qu'on voit très souvent, c'est les
des gens qui font du théâtre amateur et qui viennent se remplir pendant un mois.
Mais voilà, on n'avait pas parlé de la pratique, évidemment, mais ce sera l'objet probablement d'autres émissions. Merci à toutes les trois, Bénédicte Dumais, Jo Tortio, Anaïs Fléché, d'être venues ce soir au Grain à Moudre d'été. Je signale tout de même que, comme chaque année, France Culture sera très présent, évidemment, dans les différents festivals, dont le Festival d'Avignon, à commencer par la fiction, tous les soirs à 20h très prochainement, et la Grande Table par Lucille Comeau à 12h45 du 11 au 15 juillet. Le Grain à Moudre d'été, c'est Alexandra Gège, Laurence Genepin, Marie Delquier et Tanguy Omri. À la réalisation, Véronique Villa. À la technique, ce soir, c'était Edouard Rubinstein. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur franceculture.fr.
C'est l'été sur France Culture. France Culture présente la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Un musée qui retrace l'histoire de la tapisserie d'Aubusson depuis le XVe siècle, une plateforme de création pour découvrir des œuvres contemporaines étonnantes, un lieu de formation et des ateliers. Une mise en scène inédite pour s'immerger dans 6 siècles de production d'un savoir-faire reconnu patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Ouverture le 10 juillet 2016 à Aubusson. Un partenariat France Culture. Un été d'écrivain sur France Culture. Cet été, 3 auteurs se dévoilent par leur voix et leur texte. Chaque jour, 30 minutes d'un entretien à voix nue, suivi d'une lecture des œuvres de l'auteur par un comédien. Passez l'été avec Franz Hessel, Didier Deninx et Jean Dormesson. Un été d'écrivain, du lundi au vendredi à 20h. À écouter aussi sur franceculture.fr. En partenariat avec le magazine littéraire.
Demain à 18h20, dans le Grain à Moudre d'été, on parlera d'Europe. Après le Brexit, l'Allemagne va-t-elle assumer son leadership?